Bonjour, je le disais dès la première émission, le statut du vin dans notre société et la façon d'en parler sont en train de changer. Il y a quelques jours, le journal de 20h de TF1, TF1, diffusait un sujet de plusieurs minutes consacré au succès des vins naturels. Sur France 3, c'est la très belle émission documentaire Des Racines et des Ailes qui nous offrait la semaine suivante un grand tour dans le vignoble français en mettant l'accent sur des thèmes dont vous entendez parler très souvent ici. Le bio, le respect des sols, la démarche du vigneron d'auteur face à la standardisation des goûts, la place des femmes dans le vin. Le président français lui-même, Emmanuel Macron, recevait il y a peu un vigneron qu'il avait interpellé sur YouTube. Il exclut tout durcissement de la loi Evin, affirme qu'il boit du vin midi et soir et se livre même à l'exercice de la dégustation à l'aveugle dans des vidéos très faciles à trouver sur le net. Toute chose difficile à imaginer il y a encore quelques mois, convenons-en. Alors, que se passe-t-il exactement? Ces signaux faibles sont-ils précurseurs d'une prise de conscience plus générale de l'ensemble de la filière agricole vers un plus grand respect de l'environnement, des paysans et des consommateurs? Ne nous emballons pas, mais assurément, le monde du vin est un poste d'observation idéal de ces transformations, tout en nous proposant une multitude de belles histoires à raconter. Ce 23e épisode s'intitule « Le Pinot de Nice de Patrice ». Bienvenue dans la Terre à Boire.
Voilà donc pour ce deuxième épisode sur la route des vins de Loire. Le premier épisode, nous étions en train de déguster deux vins différents. C'était des Caux, du cépage Caux, qui est vraiment... Le cépage n'est pas propre au vin de Loire, mais ce nom de Caux est vraiment propre à la région de la Loire. On a vu avec Philippe Rapiteau qu'il y avait pas mal de sous-régions à l'intérieur de cet immense territoire qu'est la Loire au sens large, tout le long du fleuve. Et justement, on est cette fois-ci du côté plutôt de Vendôme, la ville de Vendôme, les coteaux du Vendômois. Et on va s'intéresser au travail d'un vigneron. Je vais commencer par présenter les gens qui sont autour de la table. Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
On continue donc ce voyage et puis on a choisi un vin. Patrice, c'est toi qui as choisi de nous présenter ce vin et donc ce vigneron, Patrice Collin. Qui fait donc du coteau du Vendômois et que nous avons avec nous au téléphone. Bonsoir Patrice Collin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de vos vins. Je vais laisser la main à Patrice qui va nous présenter un petit peu vos vins, le coteau du Vendômois.
Oui, très rapidement, alors, d'abord, moi j'ai découvert ce vin complètement par hasard il y a 5-6 ans dans une dégustation chez des voisins de ma belle famille, et j'ai découvert donc, différents vins de Patrice Collin, des blancs, mais aussi un rouge particulièrement que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle le Pinot de Nice. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme cépage, que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai souhaité qu'on en sache un peu plus directement avec le producteur Patrice Collin. Alors aussi parce que les coteaux du Vendômois en Loire, c'est quelque chose d'assez peu connu, contrairement à Chinon, Bourgueil, etc. Donc ça me semble intéressant de faire un petit zoom sur cette région. Quand on nomme Patrice Collin, alors la ferme remonte à 1735. C'était une ferme agricole. C'est vraiment Émilien Collin qui, en 1900, a développé la focalisation sur la vente directe de vin. Et à l'époque, il avait un domaine de 6 hectares, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, le domaine fait à peu près 25 hectares, à peu près avec 9 hectares de Pinot de Nice, 8 de Chenin, qui est le cépage blanc quand même typique de la Loire. Et après, différentes choses autour de Pinot Noir, Cabernet, Gamay et Chardonnay. Voilà, et donc ça me paraît intéressant de parler de ce domaine qui, malgré tout, commence à être un petit peu connu et à donner ses lettres de noblesse au coteau du Vendômois.
Ça va, Patrice Collin, la présentation est bonne, vous confirmez?
Ouais, ça va, j'ai pas besoin de rajouter, c'est parfait. Hein. Bon, la surface en Pinot de Nice augmente tous les ans. Parce que, en fait,
c'est une bonne nouvelle, ça.
Mais tout est parfait.
D'accord.
La présentation est parfaite.
Pourquoi vous faites progresser du coup la part de Pinot de Nice? C'est un cépage que vous appréciez particulièrement? Vous avez envie de travailler davantage?
Oui, c'était la première chose au départ. En fait, c'est un très vieux cépage français. Il a été très décrié. Bon, moi, j'avais fait des études en viticulture et œnologie. J'avais voyagé à droite à gauche, mais j'avais jamais rencontré de Pinot de Nice. Et quand j'ai repris la ferme familiale, Il y avait ce cépage, je me suis dit, il faut le mettre en avant, quoi. Bon, il était toujours décrié, mais je suis tombé amoureux de ce cépage. Il peut le meilleur, il peut le pire, mais quand il peut le meilleur, il est superbe, il est très particulier, quoi. Donc, j'ai toujours cru, j'ai toujours fait énormément de dégustations pour le présenter. En fait, à l'heure actuelle, je manque de Pinot Gris depuis une dizaine d'années, donc on en replante régulièrement. Il peut se décliner en fait en plusieurs choses. Le plus demandé chez nous, c'est le Pinot Gris en rouge, mais on l'élabore aussi en des gris avec et des pétillants gris naturels avec aussi. Et donc, on en vend 8 mois l'année, quoi. Ça part tout sur réservation, finalement.
D'accord. Ah oui, la demande excède l'offre.
Oui, chez nous, oui.
Quelles sont du coup les particularités de ce cépage ?
Déjà au niveau empélographique, au niveau de la vigne, il est particulier parce qu'il est décrié comme cépage sensible. En fait, quand vous le cultivez de manière en agriculture biologique, en fait, c'est un cépage très résistant. Donc, il a deux versions finalement. Il y a des gens qui veulent plus le boire et puis nous, on trouve que c'est très intéressant parce qu'il est résistant, il est assez austère, il est assez il est assez délicat à amener en fait. Hein. Et puis après, au niveau vinification, c'est un cépage qui est assez fragile finalement. Hein. Il faut faire un élevage assez long, c'est difficile à extraire. Ça fait souvent des rouges un peu palichons. Donc si vous n'avez pas une taille sévère et si vous avez des rendements un peu élevés, ça fait pas des rouges extraordinaires. Il faut maîtriser bien la production à la vigne et bien la vinification derrière. Quoi. Donc après, au niveau de la dégustation, sa première particularité, c'est les épices. Qui sont dus au cépage, évidemment, mais aussi au terroir, au microclimat du terroir. En fait. Donc, les notes épicées sont vraiment caractéristiques de ces cépages, et la molécule qui donne ces caractères-là est très très présente en fait dans les rouges Pinot Gris du Vendômois. La rotindone, en fait.
Et l'autre particularité chez vous, en tout cas, c'est que vous êtes sur des vignes. Nous, on est en train de déguster les vignes d'Émilien Collin 2013. Hein, c'était le vin que j'avais goûté donc, il y a 4-5 ans. Et je crois qu'on est sur des vignes qui datent en gros de 1890-1900, c'est ça ?
Alors, l'Émilien Collin, c'est des vignes de 1900 jusqu'à 1930.
D'accord. Okay. Donc elles ont quand même une petite centaine d'années. Hein,
c'est 1,30 m sur 1 m. Mmh. C'est des terroirs d'argile à silex. Et des vieilles vignes comme ça, donc c'est des petits rendements. Hein. L'Émilien Collin, c'est 30-35 hectolectares. C'est vendangé à la main, c'est des vinifications en grappe entière, hein, c'est pas égrappé du tout.
Du tout.
C'est les dernières vignes qu'on vendange finalement, ça résiste très bien la pourriture, on finit par les vignes d'Émilien Collin, ou alors les plus vieilles encore, 1890, mais ces vignes-là, on fait une cuvée qui s'appelle Intuition.
Ouais, vous m'avez coupé la question là. Vous avez fait Intuition C. Ouais. Pourquoi vous avez voulu faire c'est une expérience supplémentaire de faire encore une autre version de Pinot Gris avec Intuition.
La cuvée Intuition, c'est la première vigne de mon arrière-grand-père qui a été plantée en 1890 au moment du phylloxéra. C'est donc une très très vieille vigne.
Elle est franc-pied d'ailleurs ou elle est greffée?
Elle est greffée.
Elle est greffée.
Elle a été greffée sur Riparia. Mon grand-père était parti avec son cheval à Saumur chercher des Riparia. Tout le monde lui conseillait de planter des hybrides et lui donc vendait directement sa production et les gens lui demandaient du Pinot Gris, enfin, le cépage local. Donc lui il dit, moi je plante pas de Pinot Gris parce que je plante pas d'hybride, je vais replanter du Pinot Gris, et là il fallait le greffer. Donc il était chercher des porte-greffes américains sur ce mur, il est revenu avec ses boîtes de sarments et il a greffé ses Pinot Gris qu'il avait et il a replanté cette parcelle. Donc à des plantées encore plus serrées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la vulgarisation. Hein. Donc là, c'est 1,25 m sur 1 m. C'est la largeur du cheval pour passer. Et donc moi, comme il y avait une histoire derrière, j'ai souhaité garder cette parcelle. Donc elle a été complantée. Hein. Il y a quand même des pieds qui ont été remis pour bien l'entretenir. J'avais lu à l'époque sur des vieux bouquins qui faisaient des macérations de Pinot Gris, donc grappe entière très longue. C'est-à-dire qu'il décuvait, en fait, quand il ne faisait pas bon tailler la vigne l'hiver. Et il taillait la vigne à partir de la Saint-Vincent, c'est-à-dire le 21 janvier, et il finissait en mars. Donc, ça veut dire qu'il vendangeait quand même en octobre, à l'époque, hein, et le raisin macérait avec son jus jusqu'au moins janvier-février. J'ai refait ces essais-là au départ sur une petite quantité. Et puis finalement, après, j'ai fait toute la parcelle comme ça. Ça macère dans des fûts, comme à l'époque. Mais évidemment, dans des fûts plus récents, hein, moi, j'achète des fûts tous les ans. Donc on enlève un fond du fût, on vendange à la main, on met les grappes entières dans les fûts et on fait macérer très longtemps dedans. On cultive au cheval, comme à l'époque.
Voilà, c'est ça. Et celle-là, vous la faites au cheval
des airs, sur des argiles rouges, donc c'est super terroir. C'est vraiment des beaux terroirs. Et ça fait un vin représentatif du millésime et de la parcelle, évidemment, hein, parce que la vinification induit des caractères au vin derrière. Donc je fais plusieurs cuvées de Pinzonis, en fait. Hein, entre l'Emilien Colin et Intuition, en rouge, c'est des vins différents, issus du même cépage, sur un même millésime. Mais le terroir est différent, les modes de vinification sont différents. Vous avez des expressions complètement différentes.
Mais oui, je pense que
dans le métier de vigneron.
Ouais. Mais l'Emilien Colin, je pense, c'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction au Pinot de Nice, l'Emilien Colin. Voilà, la vigne d'Emilien Colin. Pour ceux qui connaissent pas, je veux dire.
Ouais, ouais. Mais... L'Emilien Colin, bah, c'est pas le plus facile dans la gamme. C'est quand même sur des épices. Il y a quand même une finale avec de l'astringence. Donc c'est quand même un cépage austère.
Hein. Oui,
la première fois qu'on goûte un rouge de Pinot de Nice, ça surprend. Ça n'a rien à voir avec du Pinot Noir, du Gamay ou du Cabernet. Donc les cépages communs que tous les dégustateurs connaissent.
Avec ma
un Pinot de Nice, ça surprend. On aime ou on se dit c'est quoi ce truc sauvage, quoi.
Ouais, c'est sauvage. Alors ça me rappelle un peu. Excusez-moi, j'ai pas une culture des cépages et viticoles énormes, mais ça me rappelle en fait le Ploussard en plus tannique. Le Ploussard, ouais. On avait un côté un peu poivré là dans le Jura. On était sur le Jura, voilà. Mais c'est le Ploussard en plus agricole, on va dire, et en plus tannique en même temps. Et du coup, je trouve avec plus de caractère.
Ouais, voilà. Après les vins de caractère, on peut faire des Pinot de Nice avec un peu moins de caractère. Moi, j'aime bien les choses de caractère. J'aime bien les tanins. J'aime bien la puissance. Parce que j'aime bien manger avec.
Non, exactement.
Je fais des vins que j'aime. Hein.
Ouais, non, sur le
bah, sur ça plaise à tout le monde. Hein.
Sur du bœuf, le côté poivré, à mon avis, c'est super, quoi.
C'est un bon parti pris
des
vignerons.
Ouais, c'est clair.
Sur quel type de plat, du coup?
Pardon. Il ne faut pas trop les servir frais, mais l'été, vous pouvez les servir à 12, 13 degrés. Moi, j'aime bien la température de la cave. Ça fait des rouges très, très digestes et très désaltérants.
Ouais, en fait, avec la
température qu'on peut trouver dans certaines régions, finalement.
Ouais. Avec la température qu'il fait à Paris en ce moment, il était dans mon sac à dos, là, sur quelques centaines de mètres. Il est bien frais. Il est super frais.
Il est bien frais.
Ah, il est bien. Il est bien. Je pense qu'il est.
S'il est un peu froid, après, ça sert un petit peu les tanins.
Non, mais là, ça va. Effectivement,
ouais, il s'est un peu libéré dans le studio.
Pour revenir sur votre démarche, parce que vous êtes en biodynamie depuis 1988, c'était une conviction.
Alors, on n'est pas certifié biodynamie.
Non, mais vous faites une agriculture biologique, c'est ça? Vous faites une agriculture biologique depuis 1988.
Il y a beaucoup de pratiques biodynamie, mais on n'a pas la certification pour l'instant.
Mais c'était quoi? C'était une volonté de dire c'est les vignes mon père, de mon grand-père, et il faut que je les respecte et que je les travaille le plus naturellement possible? C'était ça la démarche de départ?
Moi, je suis parti. Dès le départ, en fait, la certification date de 1988, mais en fait, j'ai pratiquement toujours travaillé comme ça. Mmh. Il y a très peu eu d'herbicides, de pesticides chimiques dans mes vignes, en fait. Hein. Mon père en a employé un peu, et dès que je suis revenu, moi, j'ai arrêté tout ça par conviction. Hein, un vin d'appellation d'origine contrôlée, ça va être représentatif de son terroir. Bon, si vous désherbez et que le sol sont compactés, les racines sont à 10 cm sur le sol, le terroir... Il faut le parler fort, parce qu'autrement, il n'existe plus dans le vin. Donc, dans une région difficile comme ça, il fallait mettre les chances de son côté au maximum pour arriver à s'en sortir. Donc,
pourtant,
j'ai tout replanté très serré pour avoir des expressions fortes, des faibles rendements et faire des vins naturels. Mmh. Et puis après, je travaille les sols pour que les racines soient à 1m50, 2m, 2m50 dans le sous-sol. Et le vin, le raisin, a un autre goût. Donc après, moi, derrière, c'est facile, finalement. C'est le raisin qui a du goût.
Je vous interromps, mais
donc après j'apporte aucune correction dans mes vins. Ils sont représentatifs du millésime. Bon, ça c'est une autre passion chez moi, mais c'est une autre difficulté sur le client lambda, on va dire, parce que une année ça a un goût, une année évidemment il a plus plu, plus fait de soleil, plus de vent. Le raisin il a pas le même goût. Moi je fais pas le même vin. Donc la même cuvée, parce que ça vient des mêmes parcelles, aura des goûts différents. Mais l'avantage c'est que si vous goûtez 5 vins de la même cuvée, 5 Emilien Colin, vous n'aurez jamais les mêmes, et vous allez retrouver le millésime. Comme nos grands-pères retrouvaient facilement les millésimes. Aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver les millésimes parce que beaucoup de choses en fait sont corrigées pour plaire à 98% des consommateurs. Moi, j'intéresse 2% des consommateurs.
Dont nous.
Dont nous, vous voyez, vous nous intéressez particulièrement.
Je crois que Laurent...
C'est la philosophie.
Je crois que Laurent avait une petite
approche,
question.
Une approche, j'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'ai toujours été convaincu de cette approche, mais bon, j'en vis très bien, et il n'y a eu aucun souci, il y aurait eu des problèmes commerciaux, j'aurais été, on est dans un monde économique, j'aurais été obligé de changer mon fusil d'épaule. Mais là, en fait, finalement, je suis vachement content, parce que je fais comme j'ai envie de faire, je fais des vins que j'aime, et puis en face, j'ai des consommateurs qui adorent, donc tout va bien, quoi.
Moi, je suis surpris quand même parce que c'était effectivement complètement à l'encontre de ce que vous avez probablement appris à l'école, de voilà. Ce qu'il fallait faire, non ?
Ouais, mais c'est complémentaire. Moi, je regrette pas ce que j'ai appris à l'école. Quand je suis revenu ici, j'ai mis de côté tout ce que j'avais appris, j'ai fait tout le contraire.
Oui, on est bien d'accord.
C'était utile de l'apprendre finalement pour pouvoir faire le contraire.
Apprenez ce qu'il faut pas faire, c'est tout.
Ouais, voilà. Mais après, avec la connaissance, c'est plus facile. Parce que j'ai il y a des cuvées, il y a l'intuition, mais j'improvise pas beaucoup. En fait, après, il faut avoir la connaissance de l'œnologie pour savoir qu'il faut des beaux raisins, de l'hygiène. Mm. Et après, ça roule, quoi.
Mm. Ouais, l'hygiène, c'était la grande phrase de Pierre Auvernois qui a dit si vous voulez faire des vins le plus biodynamique, il faut l'hygiène, c'est le premier truc.
Ouais, ah bah oui, c'est le premier truc parce que bon, comme on protège peu, c'est vite parti en dérive. Mm. Ah, l'hygiène, c'est la base, quoi. Faut nettoyer, faut vraiment puis nettoyer, désinfecter. Enfin, là, c'est des bases, quoi. C'est le tri du raisin aussi, hein. Parce que si vous avez un peu de pourriture des années comme 2006 où ça a été tendu, faut trier un maximum. Parce que derrière, s'il y a un petit goût de moisi, vous êtes obligé de faire des corrections. C'est pas l'objectif, quoi. Alors ça arrive, hein, des fois, sur une parcelle, une partie. Comme tout est trié, tout est vinifié séparément. On travaille beaucoup les assemblages après en dégustation. Mais au vendange, je trie un maximum des choses. Des goûtages, des cœurs de presse et les fins de presse, c'est des contenants différents finalement. Mmh. Tout est trié un maximum.
Est-ce que, parce que ça fait 30 ans que vous vinifiez à peu près, est-ce que vous constatez... est-ce que le coteau des Vendémois est aussi impacté que le reste du Val-de-Loire, on va dire, en termes d'aléas climatiques? Et est-ce que vous, comment vous constatez l'évolution depuis 30 ans maintenant du climat? Et de son impact sur la vinification.
Net, hein. Il y a eu un cap déjà dans les années 89-90. À l'époque de 89-90, on s'est dit c'est des super millésimes. Mais là, on voit le changement déjà avec moins de pluviométrie et plus d'heures de soleil. Et après, il y a eu le changement aussi autour des années 2000, 10 ans plus tard. Donc pour nous, Coteau du Vendômois, en tant que viticulteur, je dirais, on ne va pas s'en plaindre parce que bon, c'était la limite nord de la culture de la vigne. Mmh. Alors que maintenant... on est favorable à la culture de la vigne, on est bien.
Oui, c'est ça, dans 50 ans, le Val-de-Loire, ce sera Bordeaux, quoi.
Ouais. Non, mais pour ces régions-là, c'est favorable. On a fait beaucoup de choses à la vigne pour améliorer toute la qualité des raisins, mais c'est vrai que le changement climatique a donné un tout petit coup de pouce aussi par rapport à ça, quoi. Parce que, bon, il y a eu certains millésimes difficiles, on avait du mal à bien mûrir, notamment pour les rouges, bien mûrir les tanins. Alors que maintenant, ça se fait avec des rendements corrects, on va dire. On mûrit bien les tanins dans les vins rouges. Quoi. Bon, ça, avant, on était plutôt une région de blanc et de rosé, moins de rouge. Et là, on devient une région de rouge, justement des rouges sur la fraîcheur. C'est très intéressant.
Exactement. Et c'est quoi vos...
Donc après, on voit aussi le changement climatique sur les plantes. Hein, et puis sur les oiseaux, hein, donc ça veut dire les insectes, parce que les oiseaux suivent les insectes. Donc ça, c'est plus inquiétant. On a des plantes, nous, dans les vignes, qui n'étaient pas là avant. Et on a des oiseaux qui n'étaient pas là avant. Et on a des oiseaux qui tentent à disparaître. Parce que, la zone de chaleur monte. Et les plantes ont traversé la Loire. Avant, on a des plantes, en fait, qui étaient au sud de la Loire.
Comment vous allez faire pour vous adapter à ça ? Est-ce que le cépage, par exemple, il est prêt pour s'adapter à des aléas climatiques plus nombreux, à une température qui va monter ?
Le Pinot Nice, le Chenin, c'est des cépages qui sont prêts. Les moins prêts, c'est plutôt les Gamay ou les Pinot Noir. Nous, les Chenins et les Pinot Nice, en fait, ils n'ont jamais été si bien qu'à l'heure actuelle.
Ce sont
des cépages tardifs. Donc, ils ont gagné en précocité. Les précoces, comme un Pinot Noir ou un Chardonnay, bon, c'est pas les cépages de l'appellation, on en a un peu, mais c'est pas les cépages. Ici, ils mûrissent trop vite, donc ils ont un cycle court. Mmh. Ça se court fin avril, et on est obligé de les vendanger début septembre. Donc un cycle court, ça fait toujours des vins plus maigrelés un peu. Les bons millésimes, les grands millésimes, c'est des cycles longs. Un débourrement précoce, c'est une vendange où on peut tirer dans le temps avant de manger début octobre, fin octobre. Quoi. Plus le cycle est long, meilleure est la structure, la puissance du vin, la longueur en bouche des vins.
Encore aujourd'hui, vous, le Pinot de Nice, là, vous le vendangez début octobre ?
Moi, je vendange tard, ouais.
Ah oui.
J'attends, en fait, c'est le raisin qui va décider.
Bien sûr.
Plus je peux attendre. En fait, je vendange pas au maximum parce que c'est jamais en surmaturité.
Mmh.
Je ne vais pas faire des demi-secs ou des moelleux, quoi. Mais quand c'est bien mûr. Alors, ce qui me fait vendanger donc les onises pour les rouges, c'est quand le pépin il commence à être marron comme une châtaigne. Donc l'objectif, c'est qu'il soit totalement marron. Et on en est, comme là, c'est un 2013 que vous avez.
Ouais.
Bon, on n'a pas réussi, 2013, à avoir des pépins marrons d'un bout à l'autre. Donc le côté sud était marron, le côté nord était encore un peu vert. Quoi. Mais après, le raisin commençait à se dégrader. Donc après, c'est des choix. Hein. C'est vraiment un choix de dire, bon, bah là, on attaque. Parce qu'on préfère être un petit peu en dessous en maturité que d'avoir de la pourriture. Quoi.
Bien sûr.
Le gros défaut, c'est la pourriture.
Et quoi qu'il arrive, vous n'éraflez pas, vous gardez la grappe entière.
Les Pinot de Nice, si, il y a des... Les très vieilles vignes comme vous avez là sont rarement éraflées. Les plus jeunes vignes, hein, les vignes qui ont une quarantaine d'années, bon, c'est des jeunes vignes chez moi. Non, mais c'est dans la moyenne, quoi. Là, ils sont égrappés total. Dès que la rafle, en fait, pourquoi j'égrappe pas ces vieilles vignes-là, c'est qu'il y a une belle maîtrise de la vigueur, et donc peu de vigueur, et on a des rafles qui sont ce qu'on appelle ahoutées, comme du bois. Donc il n'y a pas de végétal dans la rafle.
Ça ne porte pas trop de végétal.
On peut laisser macérer. En fait, c'est de l'observation. Hein. Après, c'est pas de l'entêtement. Si une année, il y a une moins bonne maturité et que la rafle sur une parcelle est plus verte, on va l'éliminer. Donc, on a les appareils en fait pour trier, grapper et tout. C'est vraiment au cas par cas.
C'est quoi vos si c'est pas confidentiel bien sûr, c'est quoi vos projets là du moment, c'est-à-dire tenter de nouvelles vinifications en amphore, travailler un secteur en parcellaire, c'est quoi les nouveaux projets
le travail en amphore sur la cuvée intuition, on le fait déjà.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Mais c'est complémentaire. On fait pas une cuvée en fort, en fait. C'est la cuvée intuition. Ça a été complémentaire avec plus de... Il y a une micro-oxygénation plus importante que les fûts en chêne. Et il n'y a pas l'apport du tanin, du bois, du fût. Donc au niveau couleur, nous on le fait tout en pigeage. Hein, donc grappe entière, c'est un petit peu plus léger en couleur, mais beaucoup plus fruité. Et au niveau des tanins, on a beaucoup plus de rondeur dans les tanins, du fait de la micro-oxygénation due à l'amphore, et du fait aussi qu'il n'y a pas d'apport de tanins avec l'oxygène. Donc pour nous, c'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire, généralement, vous avez... à l'heure actuelle, on est sur un quart de volume en amphore et trois quarts sur des fûts en 500 litres. On n'a pas de fûts, on a très peu de fûts de 200 ml. On utilise des fûts de 500 ou 600 litres. On a fait plein d'essais dessus. Et c'est là, pour nous, le meilleur compromis, notamment sur les chenins et les Pinot de Nice en rouge.
Et une réflexion à faire.
Après, l'autre projet, c'est... On a un projet sur Vendôme. Hein, on a déjà 6 hectares de vignes sur Vendôme. Et là, on en replante 5 avec un nouveau bâtiment sur Vendôme, en fait. On a un projet... assez important, puisque mon fils revient sur le domaine, et mon gendre travaille déjà sur le domaine, donc on a pu récupérer en fait des coteaux plein sud sur Vendôme, là. La ville a revendu des terrains, dans l'aire d'appellation.
Et vous plantez des vignes neuves?
Voilà, là on replante du chenin, parce que le deuxième cépage phare de l'appellation, c'est quand même le chenin.
Bien sûr.
Et qu'on vinifie en sec, et là c'est pareil, on a une forte demande en France comme à l'export, donc on replante pour passer à 30 hectares de vignes, en gros c'est ça.
Il paraît que c'est le rêve de tout vigneron, c'était Laureline Laborde du Jura qui nous disait ça, de planter sa propre vigne.
Ouais, c'est... Bah, j'ai toujours plus ou moins fait, hein, parce que moi je suis parti avec les vignes de mon père, donc qu'avait gardé mon père, mon grand-père et mon grand-père, hein, c'était 13 hectares de vignes avec mon père.
Ces premières vignes dont on parlait tout à l'heure, elles vont tenir encore combien de temps? Parce que j'imagine que les rendements sont en train de baisser. Donc le jeu, c'est de voir ces vignes-là décliner progressivement. Et puis vous avez progressivement planté les nouvelles vignes. Mais,
moi, je vois pas la fin de ces vignes-là. En fait, quand ils sont bien entretenus, en fait, ils ont certainement été plus belles un jour. Mais moi, je les ai jamais vues si belles.
Même centenaire, elles continuent à être belles.
Ouais. Et si je vous fais visiter les vignes, c'est des vignes qui sont en parfaite santé. Il suffit de regarder simplement les pieds pour se dire, c'est quoi, c'est... Les pieds font 20 cm de diamètre, quoi. Mmh. Vraiment des très gros pieds, comme un tronc d'arbre. Mais autrement, au niveau végétation, c'est un peu plus faible, donc il y a un petit peu moins de vigueur, un petit peu moins de feuillage, mais ça n'est que mieux pour l'aération des raisins. Hein, surtout des rouges, qui doivent voir en fait les rayons du soleil. Il ne faut pas qu'ils soient cachés par les feuilles. La vendange mûrit, les feuilles mûrissent et ventilent bien les raisins. C'est pour ça qu'on peut les vendanger tard, quoi, en fait. Généralement, les vignes ont beaucoup trop de vigueur. Les raisins restent à l'ombre. La rosée au mois d'octobre ou fin septembre vient sur les raisins et les viticulteurs sont obligés de vendanger parce que finalement, si la rosée s'en va qu'à 10 heures, le raisin finit par pourrir. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Le feuillage mûrit en même temps que les raisins. Donc il y a beaucoup moins d'humidité, la feuille sèche, ça ventile bien, et les raisins restent au soleil, quoi. Et ces vignes-là, si on continue à les travailler comme ça, il n'y a aucune raison qu'ils dépérissent. Les pieds qui sont morts, c'est des pieds ils ont été longtemps conduits avec entretenus, labourés avec le tracteur enjambeur, et c'est des pentes et des dévers. Et les pieds cassés, c'est des pieds qu'on a accrochés avec les tracteurs. C'est pour ça que nous, on est revenus au cheval. Enfin, j'ai un salarié qui est un cheval. Je fais faire la formation Amboise, le cheval dans les vignes, et il me fait 3 hectares de vignes comme ça au cheval. Ça permet c'est pas pour le folklore, c'est pareil, j'en parle pas beaucoup, hein, je fais pas de pub là-dessus, moi. Mais ça permet de garder la vigne. Et ça permet aussi de passer des bons moments avec les chevaux, quoi.
Et vous le faites vous-même ou pas?
C'est une partie du métier, hein, c'est une passion, en fait.
Vous le faites, vous, avec le cheval ou pas?
Ouais. C'est surtout mon salarié, je vais être honnête.
Ah ben, faut bien qu'il y ait un avantage à être patron, quand même.
C'est passionnant, quoi.
Et du coup, à l'heure de la transmission, vous disiez votre gendre est déjà là, votre fils revient au domaine. Qu'est-ce que vous pensez que va apporter cette nouvelle génération pour reprendre déjà un beau domaine quand même, une trentaine d'hectares bientôt. Quelles sont les choses, les convictions qui les animent? Est-ce qu'ils apportent quelque chose dans l'approche comme vous avez pu l'apporter en faisant...
Ils sont déjà complémentaires dans les idées à apporter déjà... Internet, la boutique en ligne, déjà au niveau commercial.
Hein, d'accord.
Donc, la chose.
Et ça après, compte.
Ils sont plus wine tech.
Moi, je les ai appris. Enfin, moi, la dégustation chez moi, c'est un peu inné, mais je me forme toujours. Enfin, je m'en sors jamais, quoi. Je déguste énormément de choses. Donc, je leur ai appris, surtout mon fils, hein, depuis tout petit, à déguster, recracher, déguster. Et ils sont meilleurs que moi en dégustation maintenant, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Pour justement, on trie énormément de choses et après on prépare notre cuvée en dégustant les différents éléments. Et là, faut avoir un bon palais et une bonne mémoire de la dégustation. Parce que quand on déguste une cinquantaine de fûts, faut se rappeler du troisième, comment il est, quelle est la complémentarité. L'intérêt, c'est ça, c'est de trouver la complémentarité des vins qu'on a dans la cave, quoi. En mélangeant pas les vieilles vignes avec les... avec les jeunes, mais généralement, c'est complètement différent.
Vous restez attentif à tout ce qui se produit dans les régions autour de vous, et même au-delà de la Loire, j'imagine. Il y a des vins que vous appréciez qui sont loin de vos frontières.
Ouais, mais c'est surtout on est un peu chaud, hein, c'est surtout la Loire.
D'accord.
Et pourquoi? Parce que en fait, dans le Vendômois, il n'y avait pas de club de dégustation, donc j'ai monté un club de dégustation. Mmh. On se réunit tous les mois. Et les gens veulent déguster, enfin les thèmes, à chaque fois on me demande la Loire. Donc on a fait, ça fait un club qui existe depuis...
C'est pas un club, c'est une secte.
On déguste énormément la Loire sur les thèmes des différentes appellations, des différents terroirs ou des différents cépages. Il y a tellement à faire sur la Loire. Mm. Bon après, personnellement, après, j'adore les Bourgognes, quoi. Du côté de Beaune, je vais quand même souvent sur Beaune pour aller déguster les vins.
Les Pinots Noirs.
Ah ouais, pour moi c'est un... Mais ça, c'est mon goût personnel.
C'est le deuxième après le Pinot de Nice, c'est ça?
Ouais. Et après, ça m'a, le Pinot Noir, qu'il soit en Sancerre ou en Bourgogne, ça m'a donné pas mal de réflexions pour vinifier le Pinot de Nice.
Ah oui?
Ouais. Bon, moins maintenant, mais les premières vinifications du Pinot de Nice que j'ai fait, c'était une improvisation totale, parce que finalement, ils étaient tous vinifiés pour faire des vins gris, donc avec des rendements, comme les rosés, assez élevés. Et pour les refaire en rouge, à l'époque, je me suis inspiré de toutes les études qui avaient été faites sur le Pinot Noir, sur Sancerre, hein, et puis après sur la Bourgogne, quoi. Pourquoi je fais du pigeage beaucoup au Pinot de Nice? C'est les techniques de Bourgogne, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais...
Rappelez-nous, c'est quoi le pigeage?
Le pigeage, c'est... on ne pompe pas du jus pour mélanger, pour extraire la couleur. On enfonce simplement le chapeau. La fermentation... un rouge, on fait macérer le jus avec la peau du raisin. Mmh. Avec la fermentation alcoolique, dégagement de gaz carbonique, le chapeau de marc monte en surface. Et donc, on le renfonce soit à la main, soit au pied. Mais nous, on le fait avec un appareil, en fait, pour que le jus macère bien avec la peau du raisin, parce que pour récupérer la couleur. Quoi. La couleur est dans la peau du raisin.
Bien sûr.
Donc, le jus, il faut qu'il soit toujours en contact avec la peau du raisin.
Et donc, plutôt
là,
que...
On enfonce simplement le chapeau de marc tranquillement. Voilà. Donc on n'a pas de macération, ni d'écrasement des pellicules, ni des pépins de raisin qui pourraient apporter du végétal. Donc c'est des extractions très, très douces, très douces. Surtout si on le fait comme nous, en petit volume.
C'est des infusions.
On parle souvent d'infusion en fait. Lorsque je laisse macérer, la fermentation alcoolique finie, je laisse macérer encore un mois et demi. Je fais souvent des macérations de un mois et demi, deux mois.
Le pigeage, c'est quand même la méthode la plus violente quand même dans le cadre de la macération, non? Plutôt que de...
Non, le plus violent, c'est de prendre une pompe au robinet de la cuve et de refaire un circuit fermé sur la cuve. Et donc là, vous brassez le vin,
oui,
et vous lessivez le marc. Là, c'est assez violent. Ça fait
d'accord,
des extractions beaucoup plus fortes.
D'accord.
Le pigeage, vous prenez soit la main et vous enfoncez, soit un appareil qui est comme une comme un truc assez plat, quoi.
Une presse.
Et vous enfoncez tranquillement. Donc les grains de raisin, vous n'êtes même pas obligé, ceux qui ne sont pas écrasés, vous ne les écrasez pas. Donc après,
d'accord,
il y a certainement pigeage et pigeage, mais il faut faire des pigeages très délicats, et il ne faut pas faire de nombreux pigeages non plus, comme il ne faudrait pas faire de nombreux remontages, quoi. Donc nous, si vous voulez, pour paraître clair, on va faire un pigeage tous les jours pendant 4-5 jours, c'est-à-dire tant que le milieu est encore très sucré. Et puis après, on va faire un pigeage tous les 2 ou 3 jours quand on est à moitié alcool, moitié sucre. Et après, on arrête complètement le pigeage. On ferme. On ferme, on remplit les niveaux. Et là, on laisse infuser très longtemps. La malo se fait sous marc. C'est une technique comme d'autres.
Éprouvé.
En tout cas, ça marche.
En tout cas, ça fonctionne très bien. Et le Pinot de Nice, dont vous nous disiez tout à l'heure que ça pouvait donner des vins très palo, bah, c'est évidemment pas du tout le cas du vôtre, qui a quand même une
2013, c'est pas
une belle couleur.
Ouais, je suis désolé, c'est le seul que j'avais en cave.
Forte densité de plantation. Les fortes densités de plantation et pas trop de vigueur, ça fait des petits grains de raisin. Et un petit grain de raisin, vous avez moins de jus par rapport à la pellicule. Donc vous avez des concentrations bien plus élevées. Et après, le Pinot de Nice, c'est très dur à extraire. Donc soit les gens, enfin je ne sais pas comment ils vinifient, mais moi j'ai trouvé la solution par des macérations avec peu de pigeage, mais longue. Et après, c'est l'alcool qui va diluer, en fait. C'est très dur d'extraire la couleur de la pellicule du grand raisin.
Merci infiniment Patrice Collin, parce qu'avec ces mots, avec ces échanges, vous nous laissez entrevoir quand même ce qu'est le travail d'un vigneron et sur la durée, c'est-à-dire cette expérimentation permanente d'observer, d'affiner un petit peu sa technique pour obtenir le résultat que vous souhaitez, comme vous le disiez tout à l'heure, les vins que vous aimez, les vins que vous avez envie de boire. On était ravis de partager ces éléments-là avec vous, en même temps qu'on partage votre vin, ce 2013. La cuvée, Patrice, rappelle-nous.
Donc c'est les vignes d'Emilien Collin 2013.
Qui était donc votre...
Globalement, c'est les vignes d'Emilien Collin, mais je vais me précipiter dès que je peux sur Intuition.
Emilien Collin, c'était votre arrière-grand-père, c'est ça?
Ouais, c'est mon arrière-grand-père.
Bah, nous saluons la mémoire d'Emilien Collin à travers vous et à travers ses vins, et puis ces vignes qui sont plus que centenaires. Et qui, comme vous disiez, sont encore en forme.
Oui, parce qu'autrement, il faut vivre aussi avec son temps. On aurait des vieilles vignes comme ça et non rentables, on aurait fait comme les autres, on les aurait arrachées. Mais en fait, ils ont été bien plantés, hein, c'est bien parallèle. C'est très serré, mais c'est bien planté. Les cèpes avaient été légèrement relevés, parce qu'ils disaient que c'était plus facile, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce que je n'ai pas connu, plus facile à travailler avec la pioche. Donc les pieds avaient été légèrement remontés, donc ça nous convient très bien, quoi.
Bravo, et merci pour ces explications qui nous font un peu percevoir. Ben voilà, c'est ce qu'on aime nous, hein, dans cette émission, c'est percevoir la main du vigneron derrière le vin. Le vin, c'est pas qu'un breuvage comme ça qu'on verse dans un verre. Il y a une histoire derrière chaque vin.
Il y a un paysage.
Et quel paysage dans votre région, c'est assez beau aussi de se promener. C'est une région également touristique.
Vert, paysager. Donc il y a le Loir qui est très sympathique parce qu'il est très tortueux. Hein. Le sous-sol, c'est argileux, mais après c'est calcaire, donc les courbes du Loir nous protègent. Et il est très tortueux. Vous avez des prairies, vous avez des céréales, vous avez des bois, vous avez des vignes dans les coteaux. Et puis vous avez toutes les caves. Il y a énormément de caves. Hein. C'était des caves qui ont été creusées pour récupérer la pierre pour construire.
Le tuffeau.
Tuffeau.
Donc, ils permettent de conserver longtemps les vins. Idéal. Un terroir idéal. Et puis, voilà, un beau travail de vigneron. Merci beaucoup, Patrice Collin.
Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est méconnu. Parce que c'est tout petit.
C'est pour ça qu'on en parle.
C'est pour ça qu'on est content d'en parler. un grand merci, Patrice Collin. Continuez comme ça. Et puis, on va être attentif à ce qui continue de sortir de ces belles productions, ces belles cuvées par vous, par votre fils. La continuité et votre gendre, la continuité du travail de vigneron. À bientôt.
Merci beaucoup. Hein.
Merci pour votre temps.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Bah, c'était riche, hein, cet échange. C'était parfois difficile de poser une question. mais c'était vraiment.
Non, on a bien vu le travail dans la cuve, etc. Je pense qu'on a un joli cours sur le pigeage, sur pourquoi il faut érafler, pas érafler. En gros, faut pas érafler quand la grappe n'est pas verte. Enfin,
la grappe n'est pas mûre.
Ouais.
Et on sent bien que la crainte,
la
c'est d'avoir.
Quand elle est mûre, en fait, quand elle est marron. Ouais,
la crainte, c'est d'avoir du végétal. La crainte du végétal. Il ne faut pas qu'on ait ce goût de végétal qui vient abîmer un petit peu la puissance des arômes de la baie. La baie de raisin, si je ne dis pas trop de bêtises. Il me semble que Philippe nous avait déjà parlé de ça, du fait que la grappe aussi doit être. La rafle aussi est mûre, d'une certaine manière.
Ouais. Et les grains aussi. Hein. Les pépins, pardon.
Bien sûr. Les pépins doivent être marrons.
Les pépins. Et c'est la première fois qu'on parlait justement de ces techniques, le pigeage ou alors le fait de remonter, de faire un cycle comme ça avec le liquide, qui paraît peut-être quelque chose de plus doux, mais finalement, Patrice Collin lui considère que c'est plus perturbant.
Ouais, il faut éviter tout ce qui est mécanique au sens pompe, etc., parce qu'on violente, on violente la matière vivante. Encore une fois, là, c'est doucement touillé, en fait, hein, le pigeage, avec une espèce de cuillère géante dans une grande cuve, pour faire très caricatural.
Et on retrouve cet intérêt pour les vignes anciennes, hein, des vignes plus que centenaires, dont Patrice Collin nous disait qu'elles sont encore en pleine forme, même si sans doute les rendements ne sont pas ceux qu'ils étaient. Mais visiblement, il cherche le faible rendement, même sur ces vignes
mais
jeunes.
Il n'est pas bête, parce que comme il s'est très très serré, ça fait des petits raisins, mais du coup c'est serré, donc il y a plus de pieds de vigne, donc il est quand même à 35 hectolitres. Ce qui est un petit rendement, mais ce n'est pas un super petit rendement. Non, normalement, les plus de centenaires, c'est du 15-20. Mais comme c'est hyper serré, c'est ça qui est malin, c'est malin, c'est qu'effectivement, il met
c'est
plus
pas
de
l'accent
vignes.
De la Loire, ça. Hein, pas
non,
de ça.
non. mais c'est plus. Il met plus de vignes sur un hectare, du coup. Mais donc, il garde des rendements, des petits raisins. Donc, il a trouvé visiblement le bon équilibre.
Et que diriez-vous de ce qu'on a dans nos verres, du coup?
Alors, c'est un grand vin. C'est quelque chose de. Voilà, c'est hyper typique. Encore une fois, par rapport en tout cas au plus art qu'on avait goûté, je trouve ça. Plus tannique dans
là,
la même
tu fais vraiment un parallèle avec le Poulsard jurassien.
C'est vraiment le poivre, non? Je sais pas, on sent les épices, mais tout de suite le côté hyper poivré, c'est ce qui est hyper immédiat. Mais voilà, en plus tannique, en plus brut de fonderie, en plus authentique sur le côté un peu effectivement que moi j'aime bien, légèrement rustique et table, quoi.
C'est des vins qui peuvent garder, qui peuvent vieillir encore un petit peu.
Pas trop non plus, c'est 5-6 ans, 7 ans maximum, je pense. À mon avis, plutôt grâce, grâce à l'âge de la vigne plutôt qu'au cépage.
Bah, la question, c'est de savoir ce que tu veux faire de ton vin, quoi. Est-ce que c'est pas préférable d'apprécier le fruit tel qu'il est aujourd'hui, le fruit, les épices? Est-ce que les arômes tertiaires qui vont se développer vont vraiment apporter quelque chose à ce vin? J'en suis pas certain.
On s'attend en général à ce que les tanins se fondent davantage, même si là, ils ne sont pas agressifs, les tanins. Ils sont présents, mais...
Moi, je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner, à le garder beaucoup plus longtemps. Effectivement, les tanins sont souples.
Un peu d'astringence, effectivement, à la fin. On sera un petit peu de légère astringence.
La question, c'est vraiment pourquoi le garder? C'est toujours la question à se poser. Qu'est-ce que ça peut...
To be or not to be.
Qu'est-ce que ça peut donner?
To keep or not to keep.
Est-ce qu'on aime ce que ça va donner?
To drink.
L'évolution sur du sous-bois, du champignon, comme ça peut le faire sur du pinot. Est-ce que c'est ce qu'on veut avoir? Moi, je pense que là, dans ce cas précis, il est très très bien maintenant. Déjà 5 ans, je pense que c'est parfait.
Il est à maturité.
Question traditionnelle, avec quoi on boit ce genre de breuvage? Qu'est-ce qu'on mange avec? Ne sortez pas le gibier sinon. Si,
non, mais là,
justement.
La bavette, non, la bavette de bœuf, parce que
la bavette de l'Ohio.
Le côté épice poivré ou des plats un petit peu épicés, par exemple.
C'est parfait sur les tapas, ça, c'est bien en bar à vin, ça. C'est un vin de bar à vin.
C'est un vin de bar à vin, dit-il lui-même, patron de bar à vin. T'en as du Pinot de Nice à la carte, Laurent Delceau?
J'en cherchais.
C'est vrai?
Ouais, tout voilà, à fait, hein. Tout à fait. C'est vraiment un cépage qui me plaît bien.
Donc intuition.
Qui est un petit peu original. Oui, mais
Bon, il en a pas assez.
Je pense que voilà, oui, c'est ça. Il doit fonctionner sur allocation et je suis mort, moi.
Quand on entend que la demande excède l'offre, ouais, ça va être difficile de s'en procurer finalement.
Oui, mais celle-là, là.
Non, mais
il
n'est pas le seul à faire du Pinot de Nice. Il faut juste que je trouve celui qui acceptera de m'en vendre dans des... à un niveau de prix, avec les conditions logistiques qui conviennent à mon business.
Pour cette bouteille, pour info, on est à 12,50 €.
Ah oui, c'est très abordable.
Au domaine.
Au domaine. C'est là-bas que tu l'as acheté, toi, ou tu l'as trouvé à Paris?
Non, enfin, j'ai trouvé donc par ce... Là, je l'ai acheté lors de cette dégustation, il y a 4 ans, avec ce petit vendeur qui faisait
déguster.
Il nous a
sorti un petit vin de ta cave.
Bah, tant qu'à faire.
Ouais. Bah, merci pour cette découverte. Hein, parce que...
C'est à peu près le même niveau de prix que le sans-visage... qu'on a dégusté auparavant.
Ah oui, le co.
Oui, c'est,
on n'a peut-être pas dit domaine, les prix des co. Oui,
au
c'est
domaine,
vrai.
C'est de l'ordre de cet ordre de grandeur de 12 euros. Oui.
Formidable, la gloire. On a des vins très, très élégants, à des prix très abordables. Hein. Moins de 15 euros, c'est pas si fréquent finalement.
Après, sur Paris, je sais pas.
Oui, le prix au
on
domaine.
A souvent, on
prix...
a souvent indiqué des prix cave Paris plutôt que des prix domaine. Donc,
ah oui.
Mais bon, sur le... Patrice Collin a un site, vous pouvez acheter directement sur le site. Alors après, il faut se grouper pour peut-être pas payer les...
C'est un site qui a été développé par Émilien Collin, d'ailleurs, je crois.
Exactement. C'était hyper en avance sur son temps.
Non, mais quand même, par contre, je blague un peu, mais il disait qu'il vendait son vin directement. Je pense que c'était assez rare, quand même. À l'époque, on avait tendance à mettre tout à la coopérative, etc. Ben voilà, c'était donc notre deuxième épisode en terre de Loire, avec cette découverte d'un cépage que moi je ne connaissais pas du tout, hein, le Pinot de Nice, qui est vraiment typique du coin, et que Patrice Collin, donc ce vigneron que nous avons eu le plaisir de rencontrer, il a un certain plaisir à vinifier. Visiblement, c'est le cépage qui lui plaît, c'est les vins qui lui plaisent. Donc on va continuer comme ça, on va s'attaquer quand même au gros morceau. Hein. On a dit en introduction que la Loire, le premier grand cépage de Loire, c'était le...
Pour être franc, on va s'attaquer au Cabernet.
Le Cabernet Franc, voilà, qu'on n'a encore jamais croisé sur notre route et qu'on va donc explorer, déguster lors du prochain épisode. Merci messieurs, merci.
Merci.
Et à très vite.
Au revoir.
On continue sur la Loire. À bientôt, ciao.